Bonsoir à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Jean-François Chassé, auteur de nombreux essais et romans, professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et responsable de Sélectif, un groupe de recherche sur les liens entre sciences et littérature. Y a-t-il un imaginaire des sciences? Dans quelle mesure la science se trouve-t-elle au centre de la culture? La science-fiction est-elle un genre spécifique, scientifique plutôt? Voilà quelques-unes des questions que notre invité abordera en notre compagnie. Avant de céder la parole à Jean-François Chassé, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le site Internet de BANQ. Merci aussi d'éteindre vos cellulaires et bonne soirée à tous.
Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à mon tour. Je vais commencer par une donnée d'ordre institutionnel qui me fait toujours du bien. Vous êtes assez nombreux. J'ai déjà lu que Isaac Newton, quand il donnait ses cours de physique à Cambridge, il est arrivé qu'il commençait ses cours et qu'il n'y avait aucun étudiant dans la classe, qu'il parlait devant des salles vides. Et depuis que je sais ça, à chaque fois que j'ai une conférence, qu'il y a au moins une personne, je me dis « j'ai battu Isaac Newton » et c'est très bon pour le moral. Alors écoutez, il y a longtemps que je m'intéresse à la question dont je parlerai aujourd'hui, c'est-à-dire les ponts possibles, souhaitables, à mon sens, entre la science et la littérature, la place du discours scientifique dans la littérature. J'ai souvent donné des conférences sur le sujet, j'ai souvent participé à des débats sur la question devant des publics très variés. À chaque fois, j'ai un peu l'impression de reprendre mon bâton de pèlerin pour défendre une chose qui me semble primordiale et que je dirais, dans un premier temps, en deux mots, cette chose primordiale, c'est d'abord l'importance de la science dans la culture, rappeler que la science fait partie de la culture. Je suis toujours un peu estomaqué de voir à quel point les sciences prennent aussi peu d'espace dans les journaux, sauf l'économie. Et, bon, le statut de l'économie parmi les sciences, déjà à mon avis, est un peu discutable. Donc, la place de la science dans la culture et sa mise en scène dans les textes de fiction. On dit souvent, alors commençons par les lieux communs, on dit souvent que la littérature est le royaume de la subjectivité, de l'imagination, de la réflexion sur le sujet, un sujet humain, sur l'individu, qu'elle pousse très loin les connaissances potentielles, un certain fantasme du savoir parfois, donc ça serait la littérature, et que la science serait le monde de l'objectivité, de la distance, de la recherche patiente à partir des faits. Bon, évidemment, il y a là-dedans quelque chose d'assez simple et de plutôt manichéen. Il y a quand même un certain temps que la science ne fait pas que de la recherche empirique. Hein. La conception même de la science, et même que les scientifiques font de la science, a beaucoup changé. Je rappelle simplement sur le plan anecdotique qu'à la suite d'Auguste Comte, ces épigones, les positivistes à la fin du 19e siècle qui étaient tellement anticléricaux, avaient au moins un allié objectif dans le Vatican lorsqu'ils affirmaient que la tombe n'existait pas, parce que pour les positivistes, la tombe n'existait pas, puisqu'on ne pouvait pas le voir, et ce qu'on ne peut pas voir, ce n'est pas scientifique. C'est pour vous dire à quel point les choses, quand même, ont changé. Je dirais aussi, ce qui est peut-être un peu trivial de dire, mais qu'il faut rappeler, qu'une hypothèse, c'est toujours une fiction. Qu'est-ce qui se passerait si? Pour ne prendre qu'un exemple, Einstein, quand il avait 16 ans, s'est demandé ce qui se passerait si un être humain pouvait s'asseoir sur un rayon lumineux. Qu'est-ce que ça provoquerait? Eh bien, cette hypothèse tout à fait science-fictionniste a quand même été à la base de la théorie de la relativité. J'ajoute à ça qu'on ne sait pas toujours à quoi va conduire la recherche. Hein? Vous connaissez peut-être les IG Nobel, les ignobles Nobel qu'on remet depuis une quinzaine d'années, sinon un peu plus, qui sont remis chaque année aux recherches scientifiques subventionnées qui apparaissent les plus étonnantes, douteuses, sinon comiques. Elles le sont souvent assez, en effet, mais il reste que depuis toujours, en fait, la science s'invente et se réinvente parfois à partir de propositions très, très singulières. Alors donc, il y a longtemps que je travaille sur ces questions et j'ai envie de commencer par un point de vue un peu particulier, un peu personnel, en fait, raconter quelque chose que je raconte souvent dans des conversations privées ou parfois dans certaines séances de cours. Et j'ouvre un livre qui va paraître prochainement avec ça, mais comme il paraît seulement dans quelques mois, je peux me permettre d'utiliser ça. Je vais commencer avec un sujet que je connais assez bien, c'est-à-dire moi, et rappeler mes premiers souvenirs de science quand j'étais à l'école, dans mes cours de science à l'école, à 13 ou 14 ans. Alors, si j'essaie de me rappeler mes tout premiers souvenirs de science, ça ressemble à ceci. Je me souviens de petites boules de métal qui roulaient sur une table et nous devions calculer leur vitesse et comprendre pourquoi les boules de métal s'arrêtaient ou ne s'arrêtaient pas. Pour quelqu'un qui était plongé dans Camus et Kerouac, ce n'était pas très, très stimulant. Je m'ennuyais beaucoup et je cherchais à me convaincre que je devais comprendre. Alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre que mes résultats en physique étaient totalement pathétiques. Je me souviens aussi de cours où il fallait disséquer des grenouilles. Et je me souviens surtout d'un moment où un de mes collègues s'était retrouvé en train d'ouvrir un amphibien qui avait oublié de passer le vieux trépas et se tordait de douleur. Et heureusement, pour le grand sensible que j'étais et grand défenseur des animaux, que je suis toujours, un peu moins sensible, mais toujours grand défenseur des animaux, cet amphibien est mort très rapidement. Alors, vous voyez, c'est comme ça que les choses ont commencé. Ce sont mes souvenirs les plus anciens et les plus intenses de la science. C'est comme ça que mes rapports aux sciences ont commencé mal, très, très mal. Alors, si on m'avait dit à cette époque et dans la dizaine d'années qui ont suivi qu'un jour je donnerais une conférence de ce type devant un public, j'aurais dit à la personne qu'elle prenait manifestement des drogues beaucoup trop, trop fortes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre mes 13-14 ans et mes 23-24 ans qui ont fait que moi, qui avais complètement et le plus vite possible abandonné les sciences, qui avait fait des études de lettres, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé à m'intéresser à des questions d'ordre scientifique? Eh bien, en fait, ça s'est passé au moment de ma maîtrise. Maîtrise qui n'avait en apparence, rien à voir avec les sciences, puisqu'elle portait sur le roman montréalais, mon roman montréalais des années 70. Donc, j'avais un corpus de trois textes et je m'intéressais aux structures narratives des romans, en quoi le roman, non seulement dans le contenu, mais dans sa forme, dans sa structure, représentait la ville. Or, les trois textes de mon corpus étaient des textes qui se présentaient sous forme fragmentée, des fragments assez courts, parfois assez peu reliés les uns aux autres, ou en tout cas des textes qui ne se présentaient pas de façon linéaire. Et à cause de ça, bien, je me suis mis à m'intéresser au rapport entre la forme justement de ces textes et le chaos urbain, le labyrinthe urbain, la ville éclatée, etc. Et m'intéressant à ces questions, je me suis mis à m'intéresser à des questions comme celles d'ordre et de désordre qui concernaient la ville, mais évidemment, ordre et désordre, ça renvoie aussi bien sûr, à la physique, aux mathématiques. D'ordre et désordre, je suis passé à la théorie du chaos. De la théorie du chaos, je suis passé à la cybernétique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une thèse de doctorat sur les rapports intellectuels entre sciences et littérature à partir d'un roman français contemporain, La vie mode d'emploi de Georges Perec, mais qui portait essentiellement donc sur les rapports entre sciences et littérature, où je devais comprendre des théories scientifiques parfois en m'arrachant les cheveux et en me disant que ça aurait été tellement plus simple pour moi de travailler sur le temps chez Proust ou l'argent chez Balzac. Il y a déjà pas mal de références, beaucoup plus que pour les rapports entre sciences et littérature. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je me prends comme exemple, parce qu'il me semble que, d'une certaine manière, je suis un cas banalement typique, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à la science, à la culture de façon assez large, où on est curieux de toutes sortes de choses, on ne peut que revenir aux sciences. Les sciences sont inévitables parce que les sciences sont partout. Et donc, vous voyez, même à partir d'un sujet de mémoire de maîtrise qui ne cherchait absolument pas à se rapprocher des sciences, je me suis retrouvé en plein cœur du sujet. Et aujourd'hui, et je sais que c'est très, très facile de dire ça 35 ans plus tard, avec le recul, Mais il me semble qu'il aurait été plus facile de m'intéresser aux sciences quand j'étais jeune en me racontant des histoires. Par exemple, si on m'avait raconté les procès de Giordano Bruno et de Galilée, ça m'aurait permis de comprendre que ces sciences qui me paraissaient tellement enracinées dans l'institution, ennuyeuses dans leur nécessité, leur obligation scolaire, leur routine appliquée, avaient représenté en réalité le modèle de la subversion, de l'opposition, parfois d'ailleurs aux grandes dames de leurs concepteurs. Hein. C'est pas pour rien, par exemple, que Copernic a attendu d'agoniser avant de permettre la publication des Revolutionibus Orbium Celestium en 1543, c'est qu'il se doutait bien des effets. Exemple plus récent, celui de Darwin, qui a pris 20 ans avant de publier L'origine des espèces, après plus de 20 ans après son retour de son voyage de 5 ans avec le Beagle. Évidemment, il a fallu un certain temps pour mettre en forme l'ensemble de ses travaux, de ses idées, mais il reste qu'il a vraiment beaucoup tardé. Et la preuve qu'il a vraiment tardé, c'est qu'en fait, quand il s'est décidé à publier de façon très, très accélérée pour une raison, c'est qu'il y a un jeune homme qui s'appelait Alfred Russel Wallace qui venait de lui envoyer un article en lui disant « Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que c'est intéressant. » Et qui rejoignait en fait les travaux de Darwin sur l'origine des espèces, mais évidemment Darwin avait passé plus de 20 ans à travailler là-dessus. Alors le texte de Alfred Russel Wallace était un texte relativement mineur à côté de l'ensemble des travaux de Darwin, mais c'est cet article qui l'a poussé à publier l'origine des espèces. Alors pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Il y a toutes sortes d'hypothèses possibles, mais une hypothèse fondamentale, je pense, c'est que Darwin était un homme de son temps. C'est un esprit libéral, ouvert, mais il reste que Darwin vivait à l'époque victorienne, avait été croyant, il va le devenir de moins en moins, mais vivait avec une femme qui était, elle, très, très croyante, Emma. La femme de Charles Darwin s'appelait Emma, Charles et Emma, comme Charles et Emma Bovary, vous voyez, les rapports en sciences et littérature sont vraiment partout. Donc, Darwin se doutait bien, savait bien que ce qu'il était en train de faire ne passerait pas comme une lettre à la poste dans l'Angleterre victorienne et auprès de l'Église. Darwin était vraiment un homme de son époque, et d'ailleurs, j'ai souvent pensé, fait une comparaison que vous allez peut-être trouver extrêmement triviale, elle l'est. Mais je me dis que si j'avais à comparer Darwin à un des super-héros de mon enfance, et mon enfance revient parce qu'on n'arrête pas de les voir sur les écrans aujourd'hui, Darwin, ce serait Batman. Parce que Batman, contrairement aux autres super-héros, n'a pas de pouvoir extraordinaire naturel. Batman fait les choses lui-même. Alors, Darwin, de ce point de vue-là, est intéressant à comparer à d'autres grands scientifiques parce que quand on regarde des gens comme Galilée, Newton, Einstein, Marie Curie, Niels Bohr, Feynman, c'est des gens tellement extraordinaires qu'on est complètement écrasé. Avec Darwin, on se sent un peu plus à l'aise. C'est un étudiant plutôt médiocre, paresseux, puis qui avait une grande curiosité et puis qui un jour a trouvé vraiment son intérêt dans les sciences naturelles. Mais enfin, Darwin est le Batman des sciences. Voilà, je viens de lancer cette formule magique. Alors donc, les grandes découvertes scientifiques ont souvent été des découvertes assez subversives. Je reviens à ces histoires qu'on aurait pu me raconter. Si on avait parlé de la mort du mathématicien gallois dans un duel à 20 ans, ça aurait ajouté une touche de romantisme à des mathématiques modernes, comme on disait quand j'étais jeune, dont l'austérité masquait à mes yeux toute passion à l'époque. Autre exemple, et celui-là va me permettre de bifurquer sur autre chose. Si on m'avait parlé de la gravitation universelle à partir des bandes dessinées de Gottlieb et de la rubrique à Braque, j'aurais eu tout de suite un préjugé favorable envers Newton. Vous savez que la rubrique à Braque de Marcel Gottlieb, il y a un running gag qui est Newton qui reçoit continuellement une pomme sur la tête et qui donc, à partir de là, découvre la gravitation universelle, et la pomme est souvent remplacée par à peu près n'importe quoi qui lui tombe dessus et qui fait en sorte qu'il découvre la gravitation. Bon. Or, si je le mentionne, c'est que le rapprochement entre Newton et la pomme est évidemment une des images les plus mythiques de la science et de la vulgarisation scientifique. Et pourtant, c'est justement une pure fiction. Newton n'a jamais reçu de pomme sur la tête, et si jamais il a vu une pomme tomber, il n'a pas eu d'illumination, absolument pas. Tous les biographes s'entendent aujourd'hui pour dire qu'il s'agit d'une reconstruction a posteriori pour expliquer le phénomène de l'attraction à sa nièce, Catherine Conduit, qui était probablement la seule femme qu'il appréciait, je dirais même la seule femme dans sa vie qu'il n'a pas méprisée profondément. Les biographes s'accordent aussi pour dire que Newton est sans doute mort vierge à 85 ans. Alors là, heureusement qu'on ne m'a pas dit ça dans mes cours de physique, parce que déjà que la physique me faisait peur, ça ne m'aurait vraiment pas encouragé à me diriger vers la discipline. Bon. Alors, la pomme de Newton est une légende, est un mythe, et j'oserais dire, et alors? Que les historiens rétablissent les faits, ce n'est que normal, mais en quoi une telle fiction, une telle légende, serait-elle dommageable pour un adolescent qui s'initie à la physique? Et là, je ferai une comparaison que j'ai déjà entendue, que j'ai trouvée assez intéressante avec la musique. C'est qu'évidemment, les sciences, il y a seulement une très petite minorité de la population qui va vraiment faire des sciences actives. Mais de la même façon, on pourrait dire qu'en musique, il y a seulement les musiciens professionnels qui utilisent leur instrument tous les jours. Ça n'empêche pas qu'on puisse s'intéresser à la musique, même si on n'est pas un musicien professionnel. En fait, on peut même être mélomane sans être capable de lire une portée. On peut être mélomane quand même, mais pour ça, il faut avoir été initié à la musique, il faut qu'on nous ait appris ce qu'était la musique, quelles étaient les formes de la musique, en quoi la musique était intéressante. Et de la même façon, je pense qu'en sciences, même si un adolescent suit des cours de sciences et sait très bien qu'il ne fera pas de sciences pendant très longtemps, ce qui importe, je pense, c'est d'abord d'initier des adolescents à une méthodologie scientifique, à expliquer ce que représente la science, c'est-à-dire, d'une part, une forme de rationalité, bien sûr, mais aussi un imaginaire qui est particulier. Je vais vous citer deux auteurs, vous connaissez peut-être, Sven Ortoli et Nicolas Witkowski, qui ont publié un petit livre que je vous suggère fortement, qui se lit comme un charme, qui s'intitule « La baignoire d'Archimède, petite mythologie de la science », dans laquelle ils écrivent ceci. « La pensée rationnelle semble être par nature exclusive et rejeter tout ce qui n'en relève pas au rayon des religions et des mythes. Alors même que la vérité scientifique n'est pas toute la vérité sur le monde et que c'est justement le rôle des mythes de dire quelque chose qui ne pourrait être dit autrement. » On pourrait ajouter à ça que je pense que c'est justement quand on est rationnel qu'on se rend bien compte que la rationalité ne suffit pas à l'espèce humaine. Alors, ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il ne faut pas rétablir la vérité face à une légende. Bien sûr, il faut enseigner que la force égale à la masse par l'accélération. Ça veut simplement dire, mais ce n'est pas rien, que rétablir les faits, ça ne suffit pas parallèlement à la disparition des légendes ni à leur obsolescence. C'est le cas, entre autres, de la pomme de Newton. Il y a un historien des sciences, Gérard Simon, qui disait « Une science se reconnaît autant à ce dont elle ne parle plus ou ne parle pas qu'à ce dont elle parle. Ce qui n'était pas clair à une certaine époque le devient. Ce qui semblait évident ne l'est plus du tout. Ce qui paraissait à une certaine époque scientifique perd de sa scientificité pour des raisons culturelles. » L'astrologie a été considérée à une certaine époque comme une science, mais évidemment, ça se pensait plus facilement quand on s'imaginait que la voûte céleste au-dessus de nous était une sorte de plafond qui ne bougeait pas, on pouvait calculer des choses. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse à l'astronomie, ou bien c'est pour rire, ou bien pour faire du fric sur le dos des gens, mais en tout cas, dans tous les cas, je proposerai un cours d'astronomie, ça ne ferait pas de tort. Bon. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que même si certaines anciennes sciences disparaissent comme sciences, elles restent comme histoire des sciences, comme histoire des mentalités. Elles restent comme archéologie, comme naissance des savoirs, et comme imaginaire des sciences, encore une fois. Il y a toujours une part d'imagination, de fantasme, de rêve qui est liée aux conditions générales du savoir à une époque. Et, il y a des grands scientifiques qui sont trompés, souvent pour des raisons culturelles, par exemple. Bon, je te donne un exemple spectaculaire, celui de Galilée face à Kepler. Hein, dans « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », à un moment donné, Galilée écrit « C'est quand même étrange qu'un être... » aussi intelligent, aussi brillant que Kepler, ait pu croire que la Lune avait des effets sur la marée. Bon. Évidemment, Galilée avait, avec Kepler, un rapport un peu étrange parce que Galilée trouvait que Kepler était trop moyenâgeux, que c'était un homme qui avait encore un pied dans le Moyen-Âge, alors que lui, bon, crée la physique aux sciences modernes. Et c'est justement parce qu'il trouvait que Kepler croyait à des choses trop anciennes, aux anciennes sciences, qui refusait, dans certains cas, de croire ce qui lui apparaissait trop étonnant dans la pensée de Kepler. Et à l'inverse, non pas du point de vue des sciences qui sont restées, mais des anciennes sciences, je reste avec le cas de Galilée, on rit beaucoup, on se gosse beaucoup aujourd'hui du fait qu'à l'époque de Galilée, il y a des scientifiques, des aristotéliciens purs et durs qui refusaient de regarder dans le télescope en disant « ce qu'on voit là-dedans, ça n'existe pas, c'est pas vrai ». Ça peut nous sembler, à nous aujourd'hui, assez ridicule, mais il faut se souvenir qu'au 17e siècle, voir, c'était voir sans médiation, c'est-à-dire que c'était l'œil nu qui était le meilleur instrument pour voir la réalité. Et on considérait que la médiation de la lentille pouvait en fait déformer ce qu'on voyait. Donc, on ne peut pas juger entièrement des erreurs ou des errements ou des résistances à une certaine époque, uniquement en fonction de notre époque à nous. Alors, tout ça pour dire que j'aurais aimé qu'on me raconte des histoires. Je me suis vengé en écrivant moi-même des fictions qui parlent souvent de science et de technologie et en racontant à ma manière les fictions des autres. Ce qui est clair, c'est que de tout temps, la littérature a utilisé la science, a puisé des modèles, des formes, des métaphores, que la littérature a utilisé certains thèmes, des figures de la science, celle du savant, bien sûr, du savant fou au savant rationnel, représentation du laboratoire, parfois comme métaphore du monde. Depuis quelques décennies, on a beaucoup utilisé la figure de scientifique ayant vraiment existé, hein, qu'on réutilise dans la fiction, des fois dans des textes près des biographies. Dans d'autres cas, il s'agit de scientifiques qui ont vraiment existé, mais qui sont complètement fantasmés. Et on a utilisé aussi des mots, des idées, des inventions qui viennent de la science et qui sont des dérives à partir des inventions scientifiques, des dérives, mais qui en même temps nous disent beaucoup de la façon dont la science, dont les disciplines scientifiques, dont certaines inventions sont perçues dans le discours social. Évidemment, ce n'est pas très surprenant parce que la science a toujours participé activement à la métamorphose de notre monde, a bouleversé des conservatismes, que ceci concerne l'institution sociale dans son ensemble ou les sujets singuliers. Les sciences ont toujours provoqué des chocs culturels, miné souvent ceux qui appelaient au changement et provoqué des craintes chez ceux qui avaient peur du changement. C'est le sociologue Max Weber qui disait « la science, c'est le désenchantement du monde ». La science désenchante le monde, mais pour montrer quelque chose d'autre. Alors, je rappelle quand même, je le disais tantôt, que Giordano Bruno et Galilée ont eu des procès religieux, mais qu'Oppenheimer a eu un procès politique, que Marie Curie a eu un procès médiatique, que Darwin s'est erré dans son domaine de banlieue de Londres pour ne pas entendre les attaques contre lui, parce qu'il ne pouvait pas supporter ça, qu'Alan Turing, grand mathématicien et un des principaux responsables de l'invention des ordinateurs modernes, a été poussé au suicide par l'armée. Einstein a été espionné pendant 20 ans par le FBI qui voulait saper sa réputation après avoir été vilipendé par les nazis, etc., etc. Évidemment, toutes ces attaques contre ces scientifiques, et on pourra en ajouter d'autres, toutes ces attaques ne reposent pas sur des raisons strictement scientifiques, et même, j'aurais envie de dire, jamais pour des raisons strictement scientifiques, puisque les sciences ne sont jamais isolées du réel. Mais je le mentionne pour dire que, contrairement à un cliché, une idée reçue, le scientifique est lui-même un être qui n'est pas coupé du monde, contrairement au cliché de la Tour d'Ivoire, qui joue un rôle social au-delà et parfois à cause de ses recherches scientifiques et qu'on ne peut pas négliger les contextes biographiques, socioculturels et historiques dans lesquels le chercheur scientifique a développé ses intérêts et sa pensée. Et je rappelle aussi que beaucoup d'écrivains importants avaient des formations scientifiques. J'en nomme seulement quelques-uns. Dans certains cas, ça va peut-être vous surprendre. Primo Levi, Isaac Asimov était chimiste. William Carlos Williams, Aragon, Louis-Ferdinand Céline était médecin. Boris Vrian et Alain Robbe-Grillet étaient ingénieurs. Marcel Aimé, Lewis Carroll, Yves Bonnefoy, Jacques Roubaud sont mathématiciens. Italo Calvino était agronome, etc., etc. Donc, il y a une foule d'écrivains importants au 20e siècle qui ont, d'abord et avant tout, une formation scientifique. Alors, les romans qui parlent de science ne parlent pas nécessairement que de science, parce que la question de la science dans le roman n'empêche pas que d'autres sujets puissent être abordés, mais justement, l'intérêt, c'est de voir comment la science peut être intégrée à la culture de façon large en s'associant à d'autres types de discours. Alors, je voudrais vous donner rapidement trois exemples qui sont volontairement très différents, trois romans qui sont accessibles dans tous les sens du terme, mais qui abordent tous les trois la science, mais de façon très différente. Donc, je les donne par ordre chronologique. Le premier, c'est un roman québécois qui date de 1989, c'est « Copie conforme » de Monique Larue, qui est intéressant pour plusieurs raisons, et je dirais notamment, vous avez peut-être trouvé ça étrange comme raison, mais je dirais parce que le roman commence à être daté. Pas au sens où il est plus intéressant à lire, mais au sens où la référence à la technologie dans le roman a vieilli. On est plongé dans le milieu informatique et on peut voir à quel point les choses ont changé depuis une vingtaine d'années. Alors, je résume très rapidement ce roman. C'est l'histoire d'un couple qui est à San Francisco avec leur fils de 5 ans. La narratrice s'appelle Claire Dubé. Et une semaine avant la fin de leur séjour à San Francisco, son mari doit rentrer d'urgence à Montréal. Ils sont à San Francisco parce qu'il a été invité à participer à un séminaire d'un groupe de psycholinguistes avec des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et du langage des machines, et il travaille à un logiciel de traduction. Et il demande à la narratrice de récupérer une plaquette qui contient l'équivalent d'une soixantaine de disquettes contient son travail des 6 derniers mois. Alors là, vous voyez, déjà, c'est un peu daté. Aujourd'hui, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu as fait ta clé USB? Bon, déjà, il y a une distance. Je ne suis même pas sûr que les étudiants qui arrivent à l'université aujourd'hui savent toujours ce qu'est une disquette. En tout cas, les floppy disks, je ne suis pas certain que ça leur rappelle quelque chose. Pourtant, ce n'est pas si loin. Donc, cette plaquette contient son travail des 6 derniers mois. Et puis, il n'a pas eu le temps de faire de double. Alors, il lui demande de récupérer, bien sûr, cette plaquette très importante pour lui. Elle se rend dans son bureau chercher la plaquette, mais le bureau est vide et elle va se trouver à son corps défendant au cœur d'une histoire de piratage informatique dans ce secteur qui est la Californie, qui à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, mais c'est peut-être plus marqué à l'époque parce que c'est plus neuf, est au cœur des modifications sociales que provoque la cybernétique à travers le développement de l'informatique. Alors là, c'est le nœud réaliste du roman, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus de ce roman plane un autre roman, un roman policier, un vieux roman policier d'Ashiel Hammett, qui s'appelle « The Maltese Falcon », le faucon maltais. Le faucon maltais est l'histoire d'un faux. Alors là, je vous résume encore plus brièvement le faucon maltais. Donc, c'est l'histoire du détective Sam Spade, dont l'associé a été assassiné. Il y a une femme, Bridget O'Shaughnessy, qui lui demande sa protection, et cette femme disparaît. Il part à sa recherche, et puis, au milieu de tout ça, il se retrouve dans une autre histoire. Il part à la recherche d'une statuette qu'on appelle le faucon maltais, qui vaut une fortune et qui est convoitée par un homme, Gutman. Et puis, enfin, je vous raconte l'histoire. Là. C'est un roman policier, c'est toujours un peu difficile de raconter le punch, mais enfin, c'est une histoire assez connue. En fait, cette statuette s'avère un faux. Et Gutman a fait tuer beaucoup de gens pour récupérer cette statuette d'une grande valeur qui, finalement, n'a absolument aucune valeur. C'est intéressant parce qu'il y a dans le roman beaucoup de clins d'œil, de références au roman de Hammett. C'est à la fois une mise à distance. Évidemment, on n'est pas à la même époque. Alors, la narratrice se promène dans des lieux où se passe le roman de Hammett, dans les années 30 ou 40. Donc, l'époque est bien différente, mais c'est aussi une manière de créer des ponts. Parce que ce qui est en jeu dans le roman, finalement, dans le roman de Monique Larue, c'est le rapport entre le vrai et le faux, entre le réel et l'artifice. Mais ce que le roman montre, c'est qu'à l'ère de l'informatique, à l'ère du réseautage et de la virtualité, Ces notions de vrai et de faux changent, prennent une autre dimension, n'ont plus la même valeur et provoquent des modifications profondes qui touchent l'être dans son essence et dans son rapport au monde. Donc, en se servant de la technologie informatique et de ses significations, il ne s'agit pas simplement de parler de science en soi, c'est de montrer comment ces nouvelles sciences, cette nouvelle science informatique, contribue à changer fortement notre rapport au réel et notre manière de concevoir le réel. Alors, la science ici est un déclencheur pour rendre compte des modifications sociales fondamentales de notre monde à la fin des années 80. Le deuxième roman dont je vais parler, qui est très connu parce qu'il fait beaucoup de bruit, son auteur a fait beaucoup de bruit et d'ailleurs fait beaucoup de bruit lui-même, c'est « Les particules élémentaires » de Michel Houellebecq, roman qui a fait scandale, mais c'est l'auteur aussi qui fait scandale, qui, enfin, tel que je suis constitué, moi, à mon avis, Michel Houellebecq est un crétin, mais ça n'empêche pas de faire des romans qui, eux, peuvent être intéressants. Donc là aussi, je vous résume rapidement ce roman qui raconte l'histoire de deux demi-frères, Bruno et Michel, qui sont nés à la fin des années 50, que les hasards de la vie ont mis à un certain moment en relation. Un des deux est un pornographe avéré, il va devenir fou, ça c'est celui qui enseigne la littérature évidemment, et l'autre est un biologiste de premier plan, donc un être qui apparaît très rationnel, mais tellement rationnel qu'en fait il ne l'est plus. Michel, qui est biologiste de premier plan, finit, croit-on, par se suicider, parce qu'il n'y a pas de preuves nettes, mais non sans avoir laissé d'importantes notes dont le contenu est révélé à la fin. Alors, avant sa mort, il a envoyé à l'Académie des sciences et à la revue Nature des textes de ses travaux, complétés par de nombreuses notes dans son bureau, des recherches en biologie moléculaire qui conduit à démontrer ceci, je cite le roman, « Tout code génétique, quelle que soit sa complexité, pouvait être réécrit sous une forme standard, structurellement stable, inaccessible aux perturbations et aux mutations. Toute espèce animale, aussi évoluée soit-elle, pouvait être transformée en une espèce apparentée, reproductible par clonage et immortelle. » Et là, des chercheurs, après lui, à partir de là, à partir de ses travaux, vont chercher à vendre cette idée a priori folle, je cite encore, « L'humanité devait disparaître, l'humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce asexuée et immortelle, ayant dépassé l'individualité, la séparation et le devenir. » Alors, on comprend à la fin, que dans l'épilogue, que tout ce roman est narré par un de ces post-hommes qui, des années plus tard, raconte la vie de celui grâce à qui cette nouvelle espèce existe. Michel Jerzynski a réussi un mode de clonage de l'humanité qui aboutit finalement à une forme d'autodestruction. Maintenant, l'espèce post-humaine est asexuée, se reproduit en laboratoire, sans angoisse, sans problème sexuel. Elle vit un grand bonheur et elle semble apaisée et heureuse. Je mets le « semble » avec une foule de guillemets parce que moi, je ne suis pas sûr que ça soit si clair que ça. Bon. Mais dans le roman, l'échec existentiel de Michel et puis dans une plus large mesure de Bruno et puis de ceux qui les entourent, répond en fait à l'échec d'une société de consommation, la nôtre, qui est incapable de produire des valeurs au-delà de l'égoïsme et du narcissisme. Le roman est largement entrecoupé de réflexions sur un profond désabusement et sur une société qui est inévitablement en décadence, en décomposition. C'est une société qui est écrasée à la fois par l'anomie de la société néolibérale puis l'absence de sens critique du nouvel âge. Et finalement, la société occidentale va tellement mal qu'il est justifié de créer comme ça une nouvelle espèce. Alors, c'est une fiction scientifique qui est tributaire de la figure très riche, bien sûr, du savant. C'est un roman qui propose une vision crépusculaire de l'humanité à une époque dans des sociétés où les possibilités, ou en fait les réflexions sur l'hybridation entre être et machine, nature et artifice se multiplient. On a parlé de ce roman à certains critiques qui ont été dévastateurs en parlant d'un roman eugéniste. Hein? Houellebecq veut détruire l'humanité pour leur remplacer cette humanité par une sorte de race parfaite. Bon, en même temps, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation parce qu'il me semble que c'est d'abord et avant tout un roman qui s'interroge à l'ère du développement massif des recherches biomédicales sur les possibilités ou les risques de celles-ci. Au fond, l'auteur déplace, permet de voir autrement, de manière, disons, fantasmatique, certains enjeux scientifiques contemporains au cœur du discours social. Houellebecq, au fond, ce qu'il fait, c'est conduire au bout de sa logique une lecture possible de certaines recherches scientifiques actuelles qui posent des problèmes éthiques. Et des problèmes éthiques qu'on n'ose pas toujours pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire, la question qui s'impose devant les prouesses de la recherche biomédicale tient aux limites à imposer ou non, c'est la grande question. Jusqu'où peut-on améliorer l'être humain? Qui sera responsable d'imposer une frontière éthique? Jusqu'où cette frontière pourra être poussée, etc., etc. Alors, le lecteur est projeté une centaine d'années, donc, dans le futur, dans cette société de post-hommes. Ce narrateur qui raconte l'histoire de leur créateur, ce qui explique le ton détaché du roman. Hein, c'est un roman qui est obsédé par la mort, mais qui s'achève sur la possibilité d'une vie éternelle, mais une vie éternelle laïque, permise par la science, qui devient un nouveau messie. Alors, les manipulations génétiques, le développement de la biologie moléculaire, tout ça fait surgir des craintes, mais qui sont celles, au fond, qui ont toujours existé face à la science, c'est-à-dire que la science repousse les barrières de l'inconnu, cliché lyrique, et nous donne, par le fait même, de nouvelles raisons de craindre une fin qu'on sait inévitable, puisque toutes les espèces finissent par disparaître. Ceci étant dit, il me semble donc que si Houellebecq pousse au bout d'une logique de la science ce discours qui se termine avec une nouvelle espèce, je ne suis pas certain, moi, que cette finale soit aussi positive que certains l'ont cru. D'abord, on n'a que le point de vue du post-humain, puis il peut bien dire ce qu'il veut de la société dans laquelle il vit, d'une part. Et c'est une société qui apparaît plutôt austère et puritaine. En fait, l'idée que ce soit un paradis me semble tout à fait discutable. Donc, à mon avis, c'est un roman beaucoup plus ouvert que ce qu'on a pu en dire, ce que certains ont pu en dire, et qui laisse la place à une interprétation assez forte sur les possibilités de la science aujourd'hui et une éthique de la science également. Le troisième roman dont je veux vous parler, c'est un roman tout récent qui date de 2007, d'un écrivain suisse qui s'appelle Jacques Nérenc. C'est un roman policier qui s'intitule « La mort de Pierre Curie » et qui renvoie à un événement historique, qui est un roman là, très réaliste. Ici, ce qui est en jeu, c'est le statut de la science qui est indissociable de la réalité politique et sociale. Il y a une question de départ qui est la suivante. Se pourrait-il que la mort accidentelle de Pierre Curie soit en réalité un meurtre déguisé? Hein, vous savez, peut-être qu'en 1906, Pierre Curie est mort à 47 ans d'une manière tout à fait bête dans un accident. Il était à Paris, il pleuvait beaucoup, il marchait dans une rue étroite, je crois que c'est la rue Dauphine. Donc, c'était glissant et puis il y avait beaucoup de circulation. Et il y a un fardier qui est passé, qui contenait des tonnes de matériel, conduit par deux chevaux. Le conducteur a voulu retenir ses chevaux. Il y a un cheval qui s'est emballé. Pierre Curie a voulu se pousser. Il a glissé et, en voulant retenir ses chevaux, finalement, il y a une des roues du fardier qui a écrasé la tête de Pierre Curie. Et c'est comme ça qu'il est mort. Donc, le point de départ du roman, c'est de se demander, est-ce que cette mort est vraiment accidentelle? Est-ce que ça ne serait pas un meurtre déguisé et un meurtre dont sa femme, Marie Curie, serait la principale responsable? Est-ce que Marie Curie a joué un rôle dans cette histoire? Alors, si c'est exact, c'est un scandale qui pourrait provoquer des tensions très fortes dans la Troisième République française. Donc, Pierre Curie est mort en 1906, on est quelques années après. C'est peu de temps après l'affaire Dreyfus qui a divisé la France en deux, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, les anti-Dreyfusards étant globalement la droite française, l'armée, la droite nationaliste, qui n'a toujours pas digéré que finalement Dreyfus soit exonéré dans toute cette affaire. Et s'il y avait la preuve d'une malversation de la part d'une étrangère, ce serait de la dynamite. Le président de la République utilise cette formule à un moment donné intéressante. Il dit « On jase au sujet de Mme Curie, cette femme étrange, cette femme étrangère qui est professeure à la Sorbonne. » Femme étrange, femme étrangère, ce n'est pas un bégaiement. Effectivement, cette étrangère est très étrange et doublement et même triplement marginalisée. D'abord, c'est une femme qui travaille, c'est une femme scientifique qui travaille, c'est une femme pour la première fois qui enseigne à la Sorbonne, et en plus, il faut que ça soit une Polonaise. Alors, ça fait vraiment beaucoup contre elle. Et en plus, elle a une tête de cochon, et heureusement, parce que sinon, ça ne serait jamais passé à travers tout ce qu'elle a dû passer, à travers tout ce à quoi elle a dû passer dans sa vie. C'est épouvantable. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais c'est vraiment épouvantable. Bon. Alors, c'est une enquête très délicate. Il faut revoir avec discrétion l'ensemble des événements qui entourent la mort de Pierre Curie et c'est confié à un homme très discret, Raoul Thibault de Mézières, en qui on peut avoir confiance. Alors, c'est un habile roman policier qui intègre assez bien les explications scientifiques à la trame narrative, mais c'est aussi un roman politique qui dresse un portrait extrêmement critique et mordant d'une France républicaine qui exprime son mépris de classe, son antisémitisme, sa xénophobie. C'est vraiment la trame de la mort de Pierre Curie. Alors, Thibault de Mézières, avec zèle, va tenter de protéger Marie Curie des attaques qui s'apprêtent à lui tomber dessus lors de la célèbre affaire Langevin, que je vous raconte en un mot. Marie Curie, donc son mari est mort dans cet accident bête. Elle en a été absolument dévastée. Elle n'a pas été la seule. Parmi les gens qui ont été dévastés, il y avait aussi un autre grand physicien qui était Paul Langevin, qui était un des élèves de Pierre Curie. Et Paul Langevin était marié, père de famille, il avait 4 enfants, marié à une femme qui n'était pas tout à fait pour lui. Hein. Paul Langevin est un grand physicien. Einstein disait partout « Paul Langevin est le plus grand physicien au monde ». Et Paul Langevin arrivait à la maison et sa femme l'engueulait en disant « Pourquoi tu fais de la physique? Ça ne rapporte pas. Tu devrais reprendre l'épicerie de mes parents. » Bon, enfin, vous voyez un peu le genre de relation qu'il pouvait y avoir. Ce n'était pas très jojo. Et le deuil de Marie Curie, la tristesse de Paul Langevin, ses problèmes à la maison, ils vont se rapprocher et puis ils vont avoir une liaison. Sauf que cette liaison va être connue et ça va être une attaque en règle contre Marie Curie. Parce que Marie Curie, bon, une étrangère qui vient détruire un ménage français, hein, qui est cette Polonaise qui vient s'attaquer à cette pauvre femme à côté, qui est trompée par son mari. Soit dit en passant, les journaux vont attaquer là, de façon très, très basse Marie Curie. Il n'y aura jamais un mot contre Paul Langevin. Évidemment, lui, c'est un homme, donc lui, il a le droit. Donc, ça va être vraiment extrêmement pénible. Marie Curie va en tomber malade. Elle va devoir fuir, d'ailleurs, en Angleterre. Pour éviter les attaques. Ça va vraiment très, très loin. Il y a des groupes de gens tous les jours qui sont devant la maison de Marie Curie pour l'insulter, là, qui vont en masse, là, pour, dehors l'étrangère. On va écrire dans les journaux que Marie Curie, qui est catholique et polonaise, en réalité doit être un peu juive, au fond. Ça va être vraiment épouvantable. Donc, c'est tout ça aussi, le roman. C'est la mort de Pierre Curie, c'est aussi les attaques contre Marie Curie et les attaques à travers elle contre une science qui est en train de se développer. Donc, au-delà et à cause de Marie Curie, le roman révèle un état de la science en France et le mépris dans lequel elle est tenue, y compris à la tête du pays. Le président de la France dit à un moment donné que la physique, pour lui, je cite, « c'est comme l'opéra, un vacarme dispendieux ». Bon. Alors, il y a un conservatisme aussi universitaire très grand qui fait dire à un de ses physiciens cette chose assez amusante. Alors, il dit que Marie Curie, c'est une folle. Pourquoi? Alors, je cite, « Il faut l'être pour remettre en cause la conservation de l'énergie et la nature même de l'atome, qui est indivisible, comme son nom l'indique. » En fait, « atome » vient d'atomos en grec, qui veut dire « insécable », mais enfin, se servir de l'étymologie pour utiliser une tautologie, ça ne fait pas beaucoup avancer la recherche. Alors, la présence de Marie Curie comme personnage dans le roman est assez limitée, mais le discours à son propos et ce qu'elle représente pour l'élite française et le milieu scientifique où il y a beaucoup de jalousie est très intéressant. À cause d'elle, à cause de son statut de femme scientifique, d'étrangère, bref, de sa marginalité, ce qui est cristallisé sont les tensions sociales de la France. Et Thibault de Mézières va remonter le fil de l'enquête et va finir par découvrir qu'effectivement, la mort de Pierre Curie est un meurtre déguisé, mais que Marie Curie n'a rien à voir avec ça. Mais c'est une histoire politique assez complexe et, en fait, le gouvernement va décider d'étouffer l'affaire. Mais ce qui ressort de ça, c'est une figure, celle de Marie Curie, qui est farouchement indépendante et honnête, qui apparaît à Thibault de Mézières comme l'image de la femme idéale. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a Einstein qui est là, à un certain moment, comme figurant mémorable dans le roman. Einstein et Marie Curie s'entendaient très bien. Ils parlaient ensemble, selon les cas, en allemand ou en français, parce que le français d'Einstein était sans doute meilleur que son anglais. Et à un moment donné, Thibault de Mézières entend une conversation enflammée, passionnée sur la physique entre Marie Curie et Einstein, et il s'emporte en disant... dans la narration, on lit « Il se promit de la défendre farouchement si elle était innocente comme elle le paraissait, au-dessus de tout soupçon, une sainte laïque, peut-être la femme la plus extraordinaire que la France ait connue depuis Jeanne d'Arc. » Ça vous donne une idée, et bon, c'est dans le roman, mais en même temps, c'est une image qui est revenue un certain nombre de fois dans le discours sur Marie Curie. On l'a déjà comparée à Jeanne d'Arc, mais pas à la même époque où elle avait sa liaison avec Paul Langevin. Le rapport d'amour-haine de la France avec Marie Curie pendant sa vie est assez extraordinaire. Alors, vous avez là trois modèles différents de romans qui traitent de science. Je résumerai chacun ici. Dans le premier cas, dans le roman de Monique Larue, ça nous montre comment la technologie fait voir le monde autrement aux humains, par le fait même le transforme, hein, transforme leur perception. Dans le deuxième cas, dans le cas du roman de Houellebecq, on a une extrapolation des possibilités de développement scientifique qui laisse ouvertes toutes les interprétations face à ces possibilités. Houellebecq pousse au bout de leur logique ces possibilités sans juger de leur pertinence, sans décider si c'est positif ou négatif. Et dans le troisième cas, vous avez un roman qui s'appuie sur l'histoire et sur le rôle essentiel d'une figure centrale de l'histoire des sciences, Marie Curie, et Pierre Curie indirectement, en montrant comment s'entrelacent le scientifique et le politique. Alors, comme vous voyez, dans les trois cas qui sont très différents, la science est ancrée dans la société, est indissociable de la culture au sens large. La science n'existe pas sans la société n'existe pas sans la science. Alors, je vous parle de littérature. Évidemment, la littérature ne joue pas le rôle de la vulgarisation scientifique. Hein, elle n'a pas à expliquer, elle n'a pas le même rôle pédagogique que la vulgarisation. La vulgarisation scientifique, c'est complexe. J'ai l'habitude de dire que la science fait la science, la vulgarisation scientifique explique la science et la fiction met la science en scène. La vulgarisation scientifique, j'en parle un peu parce que c'est pas de la fiction, mais c'est une question de langage. Elle pose un problème particulier, puis une façon de traduire ce problème, c'est une anecdote. Je n'ai jamais su si elle était vraie ou apocryphe, mais en tout cas, elle est intéressante, de toute façon. Elle concerne Richard Feynman, qui est un grand physicien qui a gagné le prix Nobel de physique en 1965. Et après son discours de réception du prix Nobel, bon, il sort, et puis il y a un journaliste qui lui met un micro sous le nez et qui lui dit « Monsieur Feynman, pour nos auditeurs, pourriez-vous nous dire en quelques minutes quelles sont les recherches qui vous ont permis de gagner le prix Nobel? » Et Feynman répond « Si je pouvais vous l'expliquer en quelques minutes, on ne m'aurait pas donné le prix Nobel pour ça. » C'est une réponse un peu courte, mais en même temps un peu ironique quand on sait que Feynman était justement un très grand vulgarisateur lui-même. C'est une réponse un peu courte, puis en même temps, c'est une réponse qui est très intéressante parce qu'on voit bien ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire, comment on peut, à partir du vocabulaire courant, qui souvent ne convient pas pour décrire une science très pointue, comment on peut expliquer rapidement des expériences très complexes sans les dénaturer? La vulgarisation scientifique joue un rôle extrêmement important et très difficile parce qu'elle doit régler la quadrature du cercle en simplifiant la complexité, en trouvant des mots pour expliquer des travaux qui se traduisent mal, souvent par des exemples concrets, et même parfois qui sont intraduisibles du chiffre à la lettre. Alors, on voit bien le danger. Les exemples sont souvent pris dans la vie quotidienne, ce qui permet souvent de nous faire une idée, mais ça reste des approximations souvent vagues de ce sur quoi les scientifiques travaillent. La littérature, elle dévoile à sa manière des problèmes posés par la science et les effets de la science sur les individus. Ou alors, elle réinvente le monde à partir de ce que la science suppose. Et de là, évidemment, un sujet qui est difficile à éviter, qui est celui de la science-fiction. Difficile à éviter parce que la science-fiction ne serait-ce que par son nom, apparaît comme le modèle par excellence de la science dans la fiction. Alors, à chaque fois qu'on me demande, vous travaillez sur la science-fiction, je fais toujours une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou plutôt je réponds, ça dépend. Et ça dépend des livres. D'abord parce que dans la science-fiction, il n'est pas toujours question de science. Hein. On tend pour des raisons un peu normales, parce que souvent ça se rejoint, mais on tend à confondre science-fiction et anticipation. Or, il y a des romans qui se passent dans le futur, qui ne parlent pas nécessairement de science, d'une part. Et il y a beaucoup de romans de science-fiction qui partent d'une vague idée de la science sans nécessairement développer sur la science. Alors qu'il y a aussi des romans de science-fiction, bien sûr, qui parlent beaucoup de science et qui s'intéressent beaucoup aux sciences. Un bel exemple de ces ambiguïtés, c'est le rapport qu'on peut faire entre Jules Verne et Herbert George Wells. Alors, ce que je vais vous citer, ça vient d'une étudiante qui travaille avec moi au doctorat, Hélène Després, qui travaille justement sur les savants fous dans la littérature. C'est elle qui m'a fait découvrir cette citation d'Oscar Wilde, en fait, qui est dans un livre qui porte sur Wells. Alors, à la fin du 19e siècle, bon, la science-fiction n'est pas encore très développée. Il y a deux figures, je pense, aujourd'hui, on peut dire, qui se démarquent, qui sont celles de Wells et celles de Jules Verne. Or, Joseph Alterac, qui écrit ce livre sur Wells, cite Oscar Wilde de la façon suivante. « Oscar Wilde avait très bien compris l'originalité de Wells lorsqu'en 1899, il le qualifiait de Jules Verne scientifique. » Donc, pour Oscar Wilde, Jules Verne n'est pas scientifique. Verne utilise la science, ou plus précisément la technologie, pour l'exploration géographique du monde de son temps, alors que Wells explore la science elle-même. De plus, il se projette dans l'avenir, ce que Verne ne fait que très exceptionnellement, et se sert de la science pour modifier le monde. La science, chez Wells, transforme le mode de vie de l'humanité. Enfin, et peut-être surtout, il traite de manière audacieuse des sujets liés à la biologie et à l'évolution. Alors, si on voulait partir de là, puis on peut discuter si ce qui est avancé ici est vrai ou faux, mais si on se fie sur ce qui est écrit là, je vous dirais que moi, ce qui m'intéresse dans les romans, c'est le côté Wells, c'est-à-dire de montrer comment la science peut modifier le monde, c'est de penser à partir de la science, explorer les romans qui explorent la science elle-même, et de montrer comment cette science a un effet sur les individus. Alors, on m'a demandé une heure, il ne me reste plus terriblement de temps, mais je veux en tout cas aborder un roman que je trouve excellent et qui est intéressant parce que c'est un roman américain qui n'a jamais été traduit, qu'aux États-Unis, on considère parfois comme un roman science-fiction et dans d'autres cas, non. Alors, à vous de décider, mais en tout cas, c'est un roman qui parle de science de façon très intéressante. C'est un roman qui s'intitule Plus, en français, qui a été écrit par Joseph McElroy en 1976. Quand on regarde la date, c'est vraiment intéressant par rapport au monde d'aujourd'hui. Alors, c'est un roman qui met en scène un personnage dans un étrange état de, je ne sais pas s'il faut dire, de reconstruction, de résurrection. Mais le roman essaie de répondre à une série de questions assez lourdes de sens. Qu'est-ce qui se produit chez un humain lorsque l'environnement devient problématique, quand le cadre de référence change? Qu'est-ce qui se passe si son corps n'en est plus un, selon la définition traditionnelle? Si les frontières entre l'humain et la machine deviennent indéterminables? Comment se produisent des connexions entre le corps, la conscience et l'espace environnant dans un cas pareil? À quel moment la transformation de l'humain signifie-t-elle qu'il passe à un autre statut, qu'il disparaît de l'humanité? Question complexe, question lourde de sens, mais qui sont abordées dans ce roman de façon très, très originale. Alors, je vous résume banalement un roman qui ne l'est pas du tout. Alors, c'est l'histoire d'un ingénieur qui a subi des radiations qui ont provoqué un cancer. Il va mourir, il le sait, et il accepte de servir de cobaye pour une expérience. Au moment de sa mort, on va extraire son cerveau de sa boîte crânienne. On va l'installer sur un appareil qui est une capsule qui est envoyée dans l'espace à 36 000 km dans le cadre d'une opération qui s'appelle TL, Travel Light, sur une plateforme qui est en orbite pour faire de la surveillance interplanétaire. Cette plateforme s'appelle Interplanetary Monitoring Platform, dont l'acronyme est IMP, I-M-P, ce qui en français se traduirait par diablotin, espiègle, quelque chose comme ça. Et son cerveau, puis là déjà c'est compliqué parce que je ne sais pas s'il faut dire son cerveau ou ce cerveau, est relié à différents équipements. Il baigne dans un bain de glucose, sur un lit de végétation. Il y a toute une série de systèmes électroniques qui le gardent en contact avec la Terre, des ordinateurs, des jauges, des indicateurs variés, des appareils de communication, ce qui lui permet, dans une certaine mesure, de contrôler son orbite. Et au début du roman, donc, il y a un rôle de surveillance, mais il y a un phénomène étrange qui se produit, qui est peut-être causé par le soleil, d'après ce qu'on peut comprendre dans le roman, c'est que le cerveau, ce cerveau, son cerveau, devient conscient de lui-même et surtout du langage. Il se met à deviner des choses, il a des visions, il y a des ombres qui surgissent, qui deviennent des formes, puis des mots, puis du contenu. Peu à peu, la mémoire lui revient par bribes. Il se met à réinventer son corps. Et là, il y a un fascinant effet de renversement, parce que normalement, un bébé qui naît, c'est un corps qui va développer son esprit. Ici, on a exactement le contraire. Dans le roman, on a un esprit, un cerveau, qui progressivement découvre et invente, réinvente son corps, se met à sentir à nouveau ses membres, les effets de la respiration, les battements du cœur. Et à la fin du roman, il finit par se rebeller contre sa situation un peu étrange, contre l'appareillage qui contrôle le mouvement de la capsule, et volontairement, il décide de faire remonter vraiment à la surface ce qu'il va appeler le dim echo, hein, un écho faible, lointain, un écho mi-enveilleuse de sa conscience, et il va finir par rompre le contact avec ceux qui le contrôlent au sol, et il va s'écraser contre l'atmosphère, brûler l'espace d'un éclair, bref, se suicider. Ce que je vous raconte là, de manière claire et linéaire, l'est absolument pas. Plus, c'est une expérience linguistique radicale. On a un être-machine, un cerveau-machine, qui est perçu dans le roman non pas de l'extérieur, mais grâce à une narration à la troisième personne qui est tout à fait neutre, qui donne l'impression au lecteur d'être dans la conscience de M+. Il dit « it », alors évidemment en anglais c'est intéressant parce qu'il y a le « it », le « i » qui revient, on ne sait plus exactement de quoi on parle, puisque est-ce que c'est encore un être humain, en fait, comment évaluer ça? On est dans cette voie narrative, qui est à l'extérieur du cerveau, qui accentue l'effet d'étrangeté de cette conscience qui est soudainement en éveil. Alors, plus on avance dans le roman, à mesure que cette conscience remonte et qu'il se souvient de ce qu'il a été comme humain, le langage se développe. Au début, on est dans la parataxe, les mots sont télescopés, sont peu développés, et puis il y a des phrases qui commencent à se développer, qui sont au début très, très simples, sujet, verbe, complément, et qui commencent de plus en plus à se développer, mais en même temps que le langage, ce qui se développe chez lui, ce qui remonte à la surface avec son ancienne condition d'humain, c'est la conscience, c'est le temps, c'est la logique, c'est l'identité, c'est tout ça qui le pousse, en fait, à se suicider. Alors, celui qui s'appelle dans le roman M+, c'est celui qui, au départ, a accepté l'expérience. Il a accepté de vivre cette expérience-là. Mais c'est un état antérieur de son existence qui est en réalité une toute autre existence, tout en étant la même. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce que c'est un cerveau qui est relié à des ordinateurs qui lui permettent soudainement de retrouver une vie qui n'est plus la sienne puisque c'est la vie d'un mort? Alors, voyez comment ce roman pousse à s'interroger, mais vraiment de manière renouvelée, sur les définitions d'être-machine, sur les rapports entre esprit et matière. Et évidemment, aussi, on peut dire que ça permet de réfléchir sur la place de l'automate dans les sociétés post-industrielles. Alors, dire la science, expliquer la science, ça permet d'exprimer les modalités d'un imaginaire scientifique en augmentant aussi les possibilités de ses mises en scène. Parler de récit de science, c'est rappeler aussi que la science, c'est une narration, c'est aussi quelque chose qui se discute, qui est de l'ordre du langage, qui se démontre, qui se déconstruit. Il y a des romans, des fictions qui mettent en scène des narrations scientifiques réelles. Je pense au roman d'Harry Mulisch, La procédure, où le narrateur, qui est biogénéticien, se rappelle que sa vie a été marquée par la lecture de l'autobiographie de James Watson. Autobiographie qui est en fait surtout centrée sur la découverte de la double hélice avec Francis Crick, hein, la formule de l'ADN. Et donc, ce texte narratif de Watson qui rappelle une expérience scientifique réelle, une découverte scientifique réelle, et le moteur en même temps de la narration fictive qu'on est en train de lire. On pourrait dire aussi qu'il y a beaucoup de romans, de pièces de théâtre qui se construisent autour de figures de scientifiques réels. Je l'ai dit tantôt, mais il y en a une foule, mais je dirais qu'Einstein et Darwin sont les deux grandes machines à fiction que je connaisse. Einstein, c'est intéressant d'ailleurs, parce que très, très souvent dans les fictions, Einstein est associé à la bombe nucléaire, comme si c'est lui qui l'avait construite dans son garage puis qu'il avait échappé sur Hiroshima. C'est vraiment très particulier. Il y a une foule de romans où Einstein est l'image même du mal de la science à cause de la bombe nucléaire. Il se sent coupable à cause de la bombe nucléaire. Alors qu'effectivement, on peut déduire théoriquement à partir de la formule E égale MC2 les possibilités de la fission nucléaire. Mais bon, Einstein est probablement le seul scientifique d'importance aux États-Unis entre 1943 et 1945 qui n'a pas participé au projet de la bombe nucléaire. Einstein a appris l'existence de la bombe nucléaire le 7 août au matin en ouvrant le journal en apprenant qu'il y en a une qui avait été lancée sur Hiroshima. Alors, c'est quand même un peu étonnant d'en faire le modèle même, le responsable de la bombe nucléaire. Il est vrai, donc, que ses travaux peuvent conduire théoriquement à la possibilité de la fission nucléaire. Il est vrai aussi qu'il avait écrit une lettre à Roosevelt, mais poussée par un autre physicien, Léo Szilard, en disant au président, il faut se méfier des nazis, il faudrait peut-être préparer une bombe pour contrecarrer une éventuelle attaque nazie. Mais bon, avant lui, il y a eu, Otto Hahn en Allemagne qui a découvert la fission nucléaire, il y a eu les travaux d'Enrico Fermi, il y a eu les Joliot-Curie, il y a eu Marie Curie. On peut peut-être remonter jusqu'à l'inventeur du feu, qui est peut-être finalement le premier responsable de la bombe nucléaire. Alors, c'est très étrange de voir que Einstein, c'est comme si Einstein étant une figure tellement importante dans la science contemporaine qu'il ne pouvait qu'être responsable d'une invention à la hauteur de sa propre grandeur et importance scientifique. Et on pourrait aussi, si je peux prendre une minute, dire un mot de ce pauvre Darwin, qui lui aussi est une machine à fiction extraordinaire. Mais alors, sur Darwin, il y a tout. Il y a même des romans, j'ai trouvé un roman créationniste contre Darwin aux États-Unis, qui bien sûr ramène tout au darwinisme social, ramène toute la pensée de Darwin à ce qu'on a appelé le darwinisme social. Alors, s'imagine que Darwin a dit « les plus forts doivent écraser les plus faibles », puis bon, enfin, c'est tout et n'importe quoi. Et Darwin a provoqué tellement de délires, et en provoque d'ailleurs encore assez de délires, qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plusieurs fictions qui le présentent de façon tout à fait délirante. Alors, je vous donne rapidement, j'approche de la fin, un exemple, qui est une pièce de théâtre qui s'appelle « Darwin's Flood » de Snow Wilson, le déluge de Darwin. Ça se passe dans la maison de Darwin, en banlieue de Londres, à Down. Et évidemment, la fiction n'a pas à être réaliste, donc c'est une pièce de théâtre qui s'ouvre au moment où Darwin meurt, au moment où il est mort. En fait, ça commence comme ça. Darwin dit « La nuit où je suis mort, j'ai fait le plus extraordinaire des rêves. » Et là, il y a un monologue assez court de Darwin où il parle sur un ton assez tragique. Ce sera le seul moment tragique de la pièce. Il raconte ce qu'on a dit de lui, de son rapport à la religion, de l'amour qu'il a eu pour son père, de l'amour qu'il a eu pour sa fille, Annie, qui est morte à 10 ans, qui est la grande épreuve de sa vie. Et il termine ce monologue en annonçant le début de son rêve. Et là, le spectateur est vraiment plongé en plein délire. Alors, on est donc chez les Darwin, qui reçoivent. Alors, ça sonne à la porte. Et puis, il y a un type en chaise roulante qui est le philosophe Friedrich Nietzsche, qui est poussé par sa sœur Elisabeth et son mari Bernard. Ils sont en route vers le Paraguay à la tête d'un groupe de purariens pour fonder une petite colonie et préserver la race. Alors, en passant, bien sûr, ils viennent dire bonjour à Darwin, qui, selon eux, est leur héros. Bon, on comprend vite que Nietzsche, qui est poussé en fauteuil roulant, n'a plus tout à fait sa tête. Emma, la femme de Darwin, l'appelle le type à moitié cinglé, puis l'infirme râleur infecté. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce gag de Woody Allen que j'aime beaucoup. Woody Allen a déjà écrit qu'il n'aimait pas écouter de la musique de Richard Wagner parce qu'à chaque fois, à chaque audition de la musique de Wagner, il avait tout de suite envie d'envahir la Pologne. Et dans cette pièce de théâtre, on a l'impression que déjà dans la pensée d'Elisabeth et de son mari Bernard, on est en 1882, le jour de la mort de Darwin, mais ils veulent envahir la Pologne. Ils ont vraiment tout à fait hâte. Il y a un télescopage là, qui se fait avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils viennent voir Darwin parce que, pour eux, les idées de Darwin répondent parfaitement aux idéaux nazis. Bernard va dire que les Nietzschéens sont les héritiers du darwinisme et évoluent rapidement vers la Grande Allemagne. Alors, ça va un peu vite comme raisonnement. Et Darwin a beau expliquer que le darwinisme social n'a rien à voir avec sa pensée et que, et là je cite Darwin dans la pièce, « le mieux adapté ne veut pas dire le plus féroce ou le plus blond », il n'y a rien à faire, ils n'en démordent pas. Bernard dit « pourquoi êtes-vous contre nous ?» et Elisabeth ajoute « pourquoi reniez-vous vos propres idées ?» Bon. Comme si ça ne suffisait pas, il y a Jésus-Christ qui débarque à leur suite, habillé en cycliste, et on précise qu'il y a un accent de Belfast. Il apporte quelques informations assez justes sur la génétique. Entre autres, il rappelle à Darwin qu'épouser sa cousine, ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Mais il se trouve là surtout pour le convertir absolument sans succès, ce qui fait que, découragé, il décide plutôt de faire l'amour avec sa femme, Emma, qui, elle, est très croyante et qui n'en croit que davantage après avoir vécu ce qu'elle vient de vivre. Bon, pendant ce temps-là, Nietzsche, qui a retrouvé des forces, appelle Marie-Madeleine via une agence d'escorte pour les besoins d'une relation sadomasochiste et jouit en insultant Dieu. On apprend plus loin qu'il est gay, d'ailleurs, qu'il n'y a aucun rapport avec le gay savoir. Bon, c'est autre chose. Alors, c'est un spectacle qui manque pas d'imagination ni, je dirais, d'humour noir, parce que là, je vous raconte ça brièvement, mais c'est vraiment très, très mordant par moment. Mais au fond, le cœur de ce délire dans cette pièce qui fait une sorte de lecture folle de la vie de Darwin, c'est quand même de nous ramener à sa pensée, c'est-à-dire que la pièce parvient de manière souvent drôle à situer Darwin et ses théories dans un ni-ni. Hein? Ni la religion, non, l'évolution ne répond pas à un grand dessein, ni la loi du plus fort, non, la culture humaine ne repose pas sur la haine et la destruction. Donc, face aux uns et aux autres, Darwin reste incorruptible. Et certaines grandes figures de l'histoire des sciences, par leur prise de position ou par l'ampleur des débats que leurs découvertes ont soulevés, qui débordent d'un strict cadre scientifique, polarisent ce que j'appelle les effets culturels de la science. Et on voit ça très, très souvent dans la fiction. Faut pas oublier, bien sûr, que la science, c'est une affaire de mots. Hein? C'est le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond qui a beaucoup écrit sur sciences politiques, sciences et cultures, sciences littérature, qui rappelait ceci. « La présence du logos se marque assez dans les noms que la science donne à ses divers cantons, biologie, géologie, etc., sans oublier la logique elle-même, pour nous rappeler que la science est activité parlante, puisque humaine. » Bref, que la science n'est pas extérieure à l'humanité, elle en fait partie, et c'est bien de cette humanité dont parle la littérature. Alors, je conclue très brièvement, en deux minutes, en rappelant quelque chose qui a été dit par Robert Oppenheimer, un grand physicien, en 1965, c'était pour le 10e anniversaire de la mort d'Einstein. Et dans un hommage rendu à Einstein, il soulignait ceci, que les mythes ont toujours leur charme, mais que ça n'équivaudra jamais à la beauté de la vérité. Et je vous avoue honnêtement que je ne suis pas tout à fait certain de comprendre vraiment ce qu'il veut dire, bien que je vois bien un peu le sens général de ce qu'il veut dire. Mais je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait, parce que l'idée, justement, parce que la science est aussi langage et parce que la science est faite par des êtres humains qui sont langage, l'idée d'une vérité dépouillée d'absolument toute mythification, de toute forme de fictionnalisation, disons, pour moi, c'est un peu flou. C'est-à-dire que la capacité argumentative à démontrer, à prouver, à l'aide d'images, le pouvoir de faire imaginer, ça relève de la vérité. C'est le sens qui ancre la vérité dans le réel, au-delà des faits. Et je vois mal comment la réalité pourrait faire sens dans une sorte de vide discursif où les images n'existeraient pas, où il n'y aurait pas justement ces métaphores qu'on a tant critiquées chez certains scientifiques, métaphores scientifiques qu'on utilise parfois en dehors de la science. Je vois mal comment ces vérités pourraient exister hors de toute métaphore. Stephen Jay Gould, grand darwinien, a utilisé une belle formule un jour en disant que la nature existe dans sa sublime indifférence à nos désirs. Donc, la nature, elle existe en soi, elle n'a pas besoin de nous. Et la vérité, tel que je sens comprendre qu'Oppenheimer veut en parler, la vérité détachée de tout imaginaire, de toute volonté de colorer la réalité à l'aide des mythes qui nous permettent de lire le monde, ne peut que correspondre à cette sublime indifférence de la nature. Puis manifestement, la sublime indifférence ne suffit pas à l'espèce humaine. Et dans une société donnée, quoi qu'en pense Oppenheimer, c'est un peu à chacun sa vérité. Et c'est sans doute pas un hasard si, justement, il y a plusieurs figures scientifiques et mythologiques qui sont associées aujourd'hui. Je pense à Prométhée, bien sûr, mais on pourrait aussi penser à Dédale tombé en disgrâce et enfermé avec son fils Icare dans son propre labyrinthe. Il y a une ambiguïté des grandes figures mythologiques qui permettent de rendre compte aussi d'une ambiguïté de la science aujourd'hui. D'une ambiguïté qui est réelle, une ambivalence qui a drainé des énergies, qui a créé des espoirs, qui a provoqué des échecs aussi bien que des tourments. Et la fiction en montre l'ampleur, les variations, les effets. Et pour terminer, je conclurai avec une comparaison. Contrairement à ce qu'on a pu dire et qu'encore quelques philosophes postmodernes à moitié fous disent, la physique quantique n'a jamais dit que le réel n'existait pas. En fait, la physique quantique, la physique subatomique, donc des microparticules, elle a fait beaucoup mieux que ça. Elle nous a permis de réaliser que le réel, en réalité, était plus complexe, plus riche, que le réel était plus étrange que tout ce que nous imaginions jusque-là. Que ce réel, au fond, si complexe, était plus propice à nous permettre de développer nos rêves. Et de la même manière, la fiction, je dirais, ne s'oppose pas au réel, tout au contraire, mais elle lui donne à travers le langage un pouvoir d'étrangeté qui nous échappe souvent dans la trivialité de nos nécessités quotidiennes. Et en ce sens, on pourrait dire que la littérature se nourrit de science et de ceux qui la font vivre en retraçant le passé, en nous permettant de mieux comprendre le présent et en nous permettant de réfléchir sur l'avenir à la manière du carbone 14. Je termine là-dessus, je vous remercie. Et puis évidemment, je suis ouvert aux questions, aux commentaires si vous en avez. Merci. Fais soif ici en avant. J'en aurais fait le double, hein, mais on m'a dit une heure. Alors. Quand on aime ça, c'est difficile de se retenir. Oui. Non, je pense pas que je fais de la science. Comment je vous dirais ça? C'est un peu délicat. Moi, je suis très en faveur, de façon générale, de l'interdisciplinarité. Mais pour moi, interdisciplinarité, ça ne veut pas dire mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi. Bon. Et je pense que, comme je l'ai dit, bon, la littérature se sert de la science, l'utilise. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la littérature, et je suis un littéraire et je pars de là, j'ai pas de formation scientifique, puis comme en plus je m'intéresse à des scientifiques qui viennent de toutes les disciplines, alors là, je peux pas tout connaître. Bon. Donc c'est vraiment d'un point de vue littéraire que je m'en sers. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les écrivains font avec la science, non seulement au plan des thèmes, des contenus, mais aussi au plan du discours. Comment il la transforme. Alors, je vous dirais, quand vous me dites ce que vous considérez que vous faites de la science, ma réponse est négative. Et ma réponse négative, c'est aussi une réaction à ce que j'ai entendu ou lu souvent. Alors, évidemment, j'ai souvent participé à des colloques sur science et littérature. J'ai souvent lu des ouvrages qui parlent de ça. Et à chaque fois qu'il y a un colloque sur science et littérature, il y a toujours ce type de communication, au moins une fois et malheureusement généralement plus, où quelqu'un a 30 minutes et pendant 25 minutes va nous expliquer mal une théorie scientifique qu'il comprend mal et à la fin, pendant 5 minutes, va plaquer ça sur le texte littéraire. Et ça, je trouve ça tout à fait inutile. Ça. Je ne vois pas ce que ça apporte ni à la science ni à la littérature. Ce genre d'interprétation du genre, je ne sais pas moi, texte qui se présente sous forme de fragments, donc théorie du chaos. Alors, on prend théorie du chaos et on l'applique sur le texte. ce genre de rapprochement-là me semble inutile. Donc, me semble surtout servir à pas grand-chose et nuire un peu à tout le monde. Je pense pas que ça donne une très bonne image des littéraires. Je pense pas que ça sert la science. Donc, si vous voulez, c'est ça que j'essaie d'éviter. Il me semble que dans ce genre de présentation-là, il y a là une volonté vraiment de scientificité de la part des littéraires. Et, bon, pour connaître un peu ce milieu, moi, je trouve qu'il y a parfois chez les littéraires le complexe du scientifique, justement. On veut tellement avoir l'air scientifique qu'on va au-delà d'une scientificité inutile. Ça apporte pas grand-chose à la littérature, ça apporte rien à la science. Donc, je suis plutôt dans une interdisciplinarité ouverte et dialoguante que... je suis contre les plaquages de grilles, disons-le comme ça. Simplement. Ben, je pourrais continuer d'ailleurs là-dessus à propos de... J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont suivi, qui sont au courant de ce qu'on a appelé l'affaire Sokal, qui était une affaire absolument extraordinaire et très intéressante sur le plan idéologique et sur le plan des idées. Hein. C'est l'histoire d'Alan Sokal qui a proposé une revue de Cultural Studies aux États-Unis, un faux article scientifique, c'est-à-dire un article qui disait que finalement la science était purement subjective et puis s'appuyait sur la French Theory, c'est-à-dire sur toutes les théories philosophiques contemporaines en France, et puis bon, avec toutes sortes d'explications, d'équations, et puis bon, l'article a été accepté par la revue, l'article est paru, et dès que l'article est paru, Alan Sokal a annoncé que c'était un pur canular, qu'en fait c'était bourré d'erreurs, que c'était volontairement bourré d'erreurs pour montrer que ces gens des cultural studies qui disent que la science est n'importe, qui utilisent la science n'importe comment, en fait, n'y connaissent absolument rien. Et le débat a largement dépassé Alan Sokal puisqu'il y a eu, dans les 2 ou 3 années qui ont suivi, si on compte les lettres aux journaux, des lettres aux journaux aux articles scientifiques jusqu'aux livres, il s'est publié plus de 3000 textes autour de l'affaire Sokal. C'est vous dire quand même que ça renvoie à un débat qui est assez profond. Et Sokal a publié par la suite, pas très longtemps après, un livre avec Bricmont qui s'appelle « L'imposture intellectuelle » où il dénonce plusieurs de ces penseurs, philosophes, sociologues, théoriciens qui utilisent des théories scientifiques à mauvais escient en leur faisant dire absolument n'importe quoi. Bon. Moi, j'ai un rapport assez ambivalent à cette histoire parce que je vous dirais que pour avoir lu et relu le livre de Sokal et Bricmont, je dirais que globalement, je suis assez d'accord avec eux. On peut chipoter sur des détails, mais je dirais qu'à 90%, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, effectivement. Il ne faut pas utiliser la science n'importe comment. Mais ce qui me dérange, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est tout ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire que ce qu'ils oublient de dire en stigmatisant des théoriciens de la littérature ou des philosophes, des sociologues qui utilisent mal la science, en utilisant des métaphores qui vont n'importe comment, ce qu'ils oublient de mentionner, c'est que la plupart des métaphores les plus folles par rapport aux théories scientifiques viennent des scientifiques eux-mêmes. Je veux dire, des trucs comme théorie du chaos pour quelque chose qui n'a rien de chaotique, effet papillon qui n'a pas de sens, théorie du Big Bang qui n'a pas de sens, principe d'incertitude qui n'a rien d'incertain, bon, on pourrait les multiplier comme ça. Ça vient d'abord de scientifiques. Et je ne dis pas ça à l'inverse pour stigmatiser les scientifiques, ce n'est pas ça du tout. Justement, ce que je reproche au livre de Sokal et Bricmont, c'est d'avoir une attitude, à mon avis, inutilement polémique. Ce qui me semble le nœud du problème, c'est justement une question de langage. Ce qui est fascinant, c'est de voir que, par exemple, la théorie de la relativité date d'une centaine d'années, la physique quantique de 75 ans, la théorie des cordes d'une quarantaine d'années, et on a encore énormément de mal à trouver des mots, à trouver des expressions, à trouver un langage qui permette de rendre compte dans notre vie de tous les jours, dans notre langage quotidien, trouver un langage qui nous permet de traduire les réalités de la science. La physique quantique a transformé complètement notre définition du réel, mais on n'a pas encore les mots qui permettent vraiment d'en parler. On utilise encore très régulièrement dans des articles de vulgarisation l'expression « principe d'incertitude », qui est largement responsable du fait qu'on a dit en principe d'incertitude, donc les fondements du réel sont incertains, donc le réel n'existe pas. Bon. Et toutes sortes de théories absolument délirantes qui sont nées en grande partie de l'expression même. Alors, c'est ça, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, et là, il y aurait plutôt une jonction à faire, une discussion à avoir venant de différentes disciplines, y compris des disciplines scientifiques, c'est comment faire pour traduire cette réalité du monde scientifique en mots, alors qu'on a encore énormément de mal à le faire. Donc, non, je ne me vois pas comme scientifique, mais pour le dialogue, ça, je suis très, très, très n'importe quoi. Avec toutes les disciplines possibles et imaginables. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier d'avoir été là, quand même pas mal nombreux, beaucoup plus nombreux que dans un cours d'Isaac Newton. Je vous remercie, vous êtes très bon pour mon égo quand je pense à Newton, c'est excellent. Merci beaucoup, bonne soirée.